Imaginez-vous qu'il y a 75 ans, quelqu'un aurait commencé à attraper cette chose qui vous chatouille au bout des doigts, ensuite un peu dans la tête, je dirais même dans le corps, parce que la collectionnite est quelque chose qui ressemble un peu à une maladie sympathique, et que vous commenciez à accumuler certaines pièces, et que vous vous trouviez, quelques années plus tard, avec un premier musée qu'on a tous peut-être visité un jour, à la rue Calvin, ici à Genève, et puis que... Il y a à peine, c'était en mai 1997, vous avez tout à coup une nouvelle fleur qui va s'ouvrir là-bas du côté de Barcelone, surtout pour recevoir certaines pièces qui sortent de l'ordinaire, des pièces précolombiennes. Lorsqu'on s'appelle Jean-Paul Barbier-Muller, il y a une histoire derrière vous. Je parlais de ses 75 ans et de ces quelques caisses, et puis de ces quelques pièces aussi que l'on expose volontairement.
Oui, c'est une histoire d'ailleurs assez merveilleuse. J'étais vraiment désolé de, vous venez de le dire, de ces pièces en caisse. Pourquoi ? Parce que le musée de la rue Calvin est un musée qui ne comporte que 7 salles. Et il faut en réserver pour l'art africain, il faut en réserver pour l'art océanien, il faut en réserver pour l'art de l'insulade ou pour les expositions thématiques. Et par conséquent, sur une collection qui n'est pas énorme, d'environ 300 pièces d'art précolombienne, mais en toute modestie, ce sont des pièces très choisies, et il y en avait à peu près 10% que l'on pouvait exposer, même pas 6-7%, 25 pièces, et le reste était dans des caisses ou était prêté lors d'expositions temporaires, ce qui demande beaucoup de manutention, ce qui n'est pas très bon pour les pièces. Et un jour, à la suite d'une exposition, une de ces expositions temporaires que nous avons organisées en Espagne, je reçois un coup de téléphone de la mairie de Barcelone qui me demande si je n'envisagerais pas, après à relativement long terme, de l'ensemble de la collection.
Là, vous parlez des pièces précolombiennes, justement.
Je parle des pièces précolombiennes qui étaient donc dans cette exposition itinérante qui passait dans une succession de musées espagnols, et notamment à Madrid. Et je me suis rendu à Barcelone, où j'ai été reçu par le maire, par l'adjoint, le président de l'Institut de la Culture de la mairie, qui, au débeauté, sans me laisser une minute, m'ont emmené voir 3 ou 4 sites possibles, un palais à la campagne, une abbaye dans laquelle était déjà exposée la collection d'art religieux du baron Thyssen, qui n'occupait que la moitié de l'abbaye, un autre très grand bâtiment dont tout l'étage était libre, et finalement un petit palais non aménagé, mais merveilleux, au centre de la ville, en face du musée Picasso, palais du XVe siècle, sur lequel j'ai jeté mon dévolu, coup de cœur, coup de foudre. Et les choses ont été à partir de là assez vite. C'est-à-dire que les travaux ont duré 1 an et demi parce que la toiture avait été refaite, mais l'intérieur devait être entièrement aménagé. On m'a demandé ce que je voulais comme couleur de sol et comme matériau, j'ai demandé de la pierre. Bon, pour lui que ça allait très bien, que pour eux que c'était formidable. Le gris foncé un peu donnait cet aspect sévère qui est celui de la vieille ville de Barcelone. Mais oui, c'est tout à fait notre idée. Enfin, nous n'avons eu que des idées communes. Et 1 an et demi donc plus tard, ils m'ont livré le bâtiment qui a été entièrement aménagé intérieurement par mon architecte de Genève, qui est notre architecte depuis 20 ans, qui met en scène, qui met en espace toutes nos expositions. Et elle a dessiné de nouvelles vitrines et le 27 mai 1997, le Museo Barbier-Muller d'Arte Precolombino était inauguré par la reine Sofia dans une effervescence et avec une fête tout à fait extraordinaire, un côté merveilleusement chaleureux. Il y a eu des déjeuners, des dîners, c'était épatant, et je dois dire que de voir ces objets dans ce cadre qui avait été créé pour eux en collaboration avec moi, dans ce cadre magnifique, et qui plus est historiquement dans une ville où Colomb, du retour de son premier voyage, avait été faire son rapport à Isabelle la catholique et au roi Ferdinand.
Et présenter ses premiers trésors.
Et j'imaginais, passant dans les rues de la vieille ville de Barcelone, effet de mon imagination, bien sûr, car je crois qu'en réalité la rencontre a eu lieu dans un monastère en dehors de la ville.
Absolument.
Mais j'imaginais Colomb, avec ses chars croulant d'or, ses Indiens, ses perroquets sur l'épaule.
C'est une image qui démarre déjà depuis Séville. On imagine traverser toute l'Espagne
comme ça, et arriver à Barcelone et dire, jetant les yeux autour de lui, c'est ici que devrait se trouver ce que j'ai découvert sur le nouveau continent. En réalité, comme chacun sait, Colomb n'a jamais eu une idée des grandes civilisations précolombiennes, puisqu'il n'a jamais vu que des pauvres Indiens dans des huttes.
De certaines îles, façon de vivre très différente.
Dans une façon de vivre extrêmement différente de ce qui était celle des gens qui vivaient à l'intérieur des terres. Et pour moi, c'était un moment, ce musée de Barcelone a été, l'ouverture de ce musée de Barcelone a été vraiment un moment de grâce.
À ce propos, est-ce que vous pensez justement qu'à partir de 1992, il y a eu une sorte d'effervescence hispanique à la recherche de ce passé qu'elle avait quand même un peu oublié? C'est-à-dire que quand on visite l'Espagne, on est assez troublé de voir si peu d'art précolombien pour des gens qui ont tenu la moitié du monde et surtout toutes les terres de ces grandes civilisations.
Mais écoutez, vous savez, il y a cette partition quand même. N'oubliez pas que, d'abord, la découverte de l'Amérique a été faite par quelqu'un qui était un Génois, qui n'était pas un Espagnol. Certes, il a reçu l'appui d'importants personnages espagnol, mais enfin son équipage était un équipage que l'on avait
très
ou moins que l'on avait réquisitionné de force à la suite d'une amende imposée à une petite ville côtière. Et aussi, dans les voyages suivants, les grands conquistadors étaient en général des gens de l'Estrémadour éventuellement des Basques, mais presque jamais des Catalans. Ce qui fait que c'est une chose qui m'a été dite parfois à Barcelone, c'est que historiquement, au fond, la conquête du Nouveau Monde, les découvertes du Nouveau Monde, au fond, c'est pas l'affaire des Catalans, m'a-t-on dit. Donc je ne crois pas que à Barcelone même il y ait un sentiment de fierté nationale qui fasse que la célébration du 500e anniversaire ait été quelque chose d'extrêmement important. Oui, il y a eu une exposition importante, précisément une exposition de notre collection à la Grande Caixa de Barcelone, qui est une exposition qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu quelque chose comme 60 000 visiteurs en 2 mois. Un grand catalogue qui avait été très imposant avait été édité, avec un texte d'introduction d'Octavio Paz qui était d'une grande beauté. Mais en fait, je ne crois pas que cette exposition ait eu plus de succès que l'on aurait eu une exposition d'un grand artiste moderne ou d'une autre civilisation.
Dans les pièces de votre collection, il y a par exemple certaines choses qui vous ont touché plus que d'autres. Nous parlerons peut-être du passé que j'évoquais tout à l'heure, ces 75 ans qui font que votre beau-père a été peut-être celui qui a commencé à s'intéresser à cet art précolombien. Mais dans les pièces, parce que c'est à l'heure, enfin tout le monde en parle maintenant à Genève, il y a cette nouvelle exposition du musée RAT, avec plus de 450 pièces, dont une majorité qui viennent de collections privées ou de musées comme le vôtre. En l'occurrence, quand on fait un achat comme cela, quelque chose qui vous réveille la nuit, qui vous rappelle le lendemain que vous avez réussi à décrocher la petite pièce, vous parliez de coup de cœur tout à l'heure, comment est-ce qu'on découvre ce genre de virus et d'attachement à un objet précolombien? Est-ce que vous avez une idée d'un de vos objets qui vous a parlé comme cela?
Oui, mais enfin, Tout d'abord, revenons peut-être à ce que vous venez de dire en ce qui concerne le collectionneur et les choses qui vous picotent le bout des doigts. Ça n'est pas vous qui attrapez le virus, c'est le virus qui vous attrape.
C'est en général comme ça dans les maladies.
Mais oui. Et vous êtes collectionneur, vous commencez, vous ne serez jamais un grand collectionneur de tableaux ou de livres ou de quoi que ce soit si vous n'avez pas été, quand vous aviez 5 ou 6 ans, collectionneur de papillons, que vous n'avez pas fait un herbier avec passion de pièces de monnaie, de fossiles, de timbres, de peu importe. Et moi, j'ai aussi passé par là, j'ai fait des séries frénétiquement, je faisais des fiches, je cataloguais, etc. Et j'échangeais mon ammonite contre une ammonite plus belle, et j'allais à la bourse des minéraux, et je me rappelle, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai commencé à acheter des livres anciens quand j'avais 13 ou 14 ans. Quand j'avais 13 ans, j'ai envoyé un livre à dédicacer à Ramu. J'avais réussi à acheter une première édition du roman Samuel Beulet, qui est un chef-d'œuvre peu connu de Ramu, et je suis très fier d'avoir cette dédicace de Ramu qui est datée de 1943, ce qui montre quand même de manière irréfutable qu'en 1943 je me souciais d'avoir une première édition de Ramu et d'avoir une dédicace autographe de l'auteur. Le virus était donc là. Par la suite, l'arbre colombien, je ne le connaissais pas quand j'avais 13 ans ni quand j'avais 18 ans, mais je l'ai découvert assez tôt. Et vous savez, je me suis trouvé, en faisant la connaissance de Joseph Müller, qui était mon futur beau-père, je l'ai connu en 1952, et en fait, j'ai été conforté dans toutes mes convictions et dans tous mes mauvais penchants, à savoir que lorsque l'on a 1000 francs en poche, il faut acheter quelque chose qui en coûte 2000, que lorsqu'on n'a pas un sou en poche, eh bien il faut acheter quand même, même en s'endettant s'il le faut, et que ce qui compte, c'est la qualité, qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, parce que les erreurs, chaque fois vous payez la carte de membre d'un club auquel au fond personne n'accède, il faut avoir fait une erreur et avoir acheté un objet qui n'est pas beau ou qui même n'est pas authentique pour ensuite, grâce à l'étude que vous faites de cette pièce et en la comparant avec une acuité que vous n'auriez jamais autrement dans votre regard, en la comparant à d'autres qui sont authentiques, vous arrivez à savoir ce qui cloche et ensuite on ne vous attrape pas une deuxième fois. Donc c'est non seulement une longue quête, mais c'est aussi beaucoup de regards par-dessus l'épaule, c'est aussi beaucoup de regards souterrains, et puis quoi que l'on en pense, assez peu de savoir livresque. Le savoir livresque, il vous permet de situer l'objet dans son contexte historique, c'est-à-dire de l'aimer mieux, c'est-à-dire que dès l'instant où vous connaissez l'histoire de la passion, et du vendredi saint et du martyr de Jésus et du pourquoi et de ce martyr, vous appréciez, vous êtes beaucoup plus ému par un crucifix que vous ne l'êtes devant un homme qui est en croix et dont vous ne savez pas du tout pourquoi il est là et ce qu'il fait là.
Dans l'art précolombien, si je vous mettais à genoux ou dans une position de lutteur comme on le voit au musée d'anthropologie, votre premier objet Olmec qui vous a vraiment touché?
Mais c'est un objet, mon premier objet Olmec que j'ai pu acquérir, qui était d'abord très difficile à obtenir, puis ensuite très difficile à acquérir pour des raisons matérielles. C'est un petit objet, c'est un objet qui n'est pas très grand, mais c'est un objet qui représente précisément quelqu'un, soit dans la position d'un joueur de pelote, soit dans la position du lutteur, enfin comme le fameux lutteur qui est lui plus grand, mais qui n'est pas en pierre dure,
qui
est en basalte, avec une surface granuleuse du musée de Mexico. Et ce petit personnage en serpentine...
Qu'est-ce qu'il fait, 7 à 8 cm de hauteur?
Une dizaine de centimètres, je dirais. Il sera ou à l'exposition de Genève, je l'ai fait revenir.
Il est à l'exposition de Genève.
Il y est déjà.
Oui, il y est.
Vous l'avez déjà vu,
oui,
vous?
Oui, bien sûr, on le voit très bien. Il y a des pièces comme ça qui vous parlent par une dimension un peu monumentale.
Bon, eh bien, je ne savais pas que... Enfin, je savais qu'il était en route, mais je ne savais pas encore qu'il était là. Eh bien, ça, c'est un objet qui, personnellement, m'a énormément touché, peut-être parce que, comme vous le savez, beaucoup de sculptures dans les civilisations non européennes sont des sculptures qui n'expriment pas le mouvement et qui ont une frontalité, comme les idoles des Cyclades, qui sont des objets merveilleux de pureté, mais qui sont des objets parfaitement frontaux, comme le sont les fétiches africains. Et dans cette petite statuette Olmec, il y a au contraire tout un mouvement qui est exprimé, une tension du corps, une énergie, une concentration, si vous voulez. Enfin, c'est pour moi quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et j'ai rêvé de pouvoir l'obtenir. Je n'ai pas cru mon bonheur pendant quelques temps, et encore aujourd'hui, il m'arrive de faire le voyage à Barcelone et de me précipiter pour voir cette pièce dans la vitrine où elle se trouve.
On ira la voir, effectivement, si on l'a déjà vu au musée Rath jusqu'au mois de janvier. Il y a d'autres pièces qui se trouvent dans cette exposition et que vous avez prêtées, mais en l'occurrence, est-ce que vous pourriez me parler peut-être de certains sites du Mexique? C'est-à-dire qu'il y a cette confrontation qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la passion. La connaissance des lieux fait que tout à coup, vous allez vous-même chercher ailleurs, chez un marchand, dans un milieu propice à l'achat, dans une vente, etc., des pièces d'un pays que vous connaissez. Est-ce que le Mexique vous a créé aussi ce genre de communication entre le vécu des sites archéologiques, de la visite touristique et puis en même temps de la possibilité d'acquérir certains objets anciens?
Alors soyons d'abord tout à fait clairs, à partir du moment où j'ai créé le musée, d'ailleurs déjà avant, ça n'était jamais arrivé, mais à partir du moment où j'ai créé le musée il y a 21 ans, je me suis non seulement interdit d'acquérir des pièces dans leur pays d'origine, mais au surplus, j'ai essayé d'éviter tous les contacts avec des gens qui puissent avoir une activité commerciale, quel qu'il soit, de façon à ne pas prêter le flanc à une critique éventuelle. J'ai eu d'ailleurs des discussions avec des collectionneurs américains qui me disaient, mais nous aussi, mais on va chez des antiquaires clandestins pour voir, simplement on n'achète pas. Ça me semble être une situation un peu ambiguë, et que personnellement, je ne sais pas où sont ces marchands qui sont forcément clandestins. Je ne veux pas le savoir. Je sais qu'il sort tous les jours pas mal de choses du sol mexicain, au contraire de l'Afrique dont on parlait tout à l'heure, et où tout ce qui avait une certaine valeur, en dehors de certains objets en terre cuite qui aujourd'hui sortent de terre, mais enfin tous les objets en bois, ils ont été pris dans le premier quart de ce siècle, au moment des colonies, et s'ils étaient restés sur place, ils seraient détruits par les termites. Donc on ne peut pas aller en Afrique et trouver des objets africains authentiques. Tout ce qu'on trouve en Afrique est fabriqué pour les touristes et artificiellement vieilli. Alors, revenons donc au Mexique. La grande différence par rapport à mes voyages en Afrique et, ou par exemple, je ne sais pas, en Indonésie, à Sumatra, et mes visites au Mexique, c'est que au Mexique, l'on se trouve en face de monuments qui vous font vous demander, mais pourquoi diable est-ce qu'on a placé l'art précolombien dans le département d'art primitif du Metropolitan Museum, et pourquoi est-ce qu'on s'apprête à le placer dans le département d'art primitif qui va s'ouvrir au Louvre? Parce que la civilisation maya, par exemple, que vous connaissez bien, est une civilisation qui a produit des monuments qui sont au moins aussi vastes, au moins aussi élaborés que ceux de l'Égypte. Il y a une écriture hiéroglyphique très raffinée. Il y a des connaissances en matière de mathématiques, l'invention du zéro, ou au point de vue astronomique et astrologique, des connaissances également extrêmement poussées. Et par conséquent, est-ce que il est raisonnable de mettre, et sans que ce soit un dénigrement pour l'un ou pour l'autre, mais est-ce qu'il est raisonnable de mettre cette civilisation-là en parallèle avec une civilisation finalement de gens qui vivaient dans des huttes ou des cases et qui avaient toujours refusé l'architecture? C'est pas qu'ils étaient incapables de l'inventer, c'est que leur mode de vie faisait qu'ils n'avaient pas eu besoin de créer une architecture de pierre, et par conséquent leur civilisation, ni de créer un moyen de communication ou une écriture. Et par conséquent, est-ce que vraiment on doit mettre en parallèle l'art précolombien et l'art africain, l'art océanien? Bon, pour revenir à la question que vous m'avez posée, ça c'était une parenthèse, je vous dirais que oui, lorsque je suis allé au Mexique, J'ai éprouvé un sentiment d'éblouissement, être à Palenque le soir quand tombe la nuit et que la forêt commence à bruire et voir ces bâtiments, être à Uxmal et regarder ce palais du gouverneur qui est une masse absolument formidable et dont la décoration est superbe. Et c'est quelque chose de tout à fait éblouissant et quelque chose qui fait mieux comprendre les petits objets portables qui se trouvent sur le marché des antiquités en Amérique ou en Europe et qui ont été rapportés au siècle dernier ou dans la première moitié de ce siècle par des visiteurs.
Paul Barbier-Mulière, il y a des départements que vous avez vous-même fait, est-ce que j'oserais dire, exploser à l'intérieur de vos réserves et de votre musée. Je pense par exemple à ces quelques pièces, il n'y avait qu'un zéro à l'époque, que Joseph Müller avait trouvé sur l'Asie et particulièrement sur les zones indonésiennes par exemple ou philippines. Et puis vous qui tout à coup par cette passion dévorante arrivez à mettre, je ne sais pas, un 2 avec 3 zéros à côté 2000 objets, c'est plusieurs touches par année, c'est plusieurs découvertes, c'est plusieurs voyages, c'est une passion.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est une passion. C'est vrai aussi que la collection de Joseph Müller, Joseph Müller a vécu jusqu'en 1942 à Paris. Et en fait, tous ces achats importants ont été faits entre les deux guerres, entre 1918 et 1942, date de, où il a été rapatrié en Suisse. Et à Paris, par exemple, on trouvait extrêmement peu d'objets du Congo belge, parce que ces objets-là arrivaient à Bruxelles.
Paris 1920, Paris 1930,
oui,
c'était Bruxelles.
Mmh. C'était Bruxelles pour les objets du Congo belge, de même que pour les objets du Nigeria, c'était Londres. Au contraire, à Paris, on trouvait des objets du Gabon, on trouvait des objets du Mali, on trouvait des objets de Côte d'Ivoire qui faisaient partie des colonies françaises, qui étaient rapportés par des officiers coloniaux, par des missionnaires, etc. Donc, par conséquent, Joseph Müller, au fond, n'a, je crois, jamais été en Hollande. Il est allé une fois en Hollande avec moi, il avait 85 ans, je l'ai emmené une fois en Hollande. Et
là, vous pensez à la filière indonésienne.
Et là, je pense à la filière indonésienne. Les objets importants indonésiens sont arrivés en Hollande. Curieusement, vous mentionniez tout à l'heure l'Espagne qui était dépourvue de goût pour collectionner les objets précolombiens. Ce qui est tout à fait vrai, ce qui est une évidence.
Ah oui,
il n'y a pas en Espagne de collection importante. Il y a deux ou trois Stelmaya, deux ou trois choses au musée d'Amérique à Madrid. Mais enfin, c'est
très singulier.
C'est singulier. Il y a le trésor des Quimbaya qui leur a été donné.
Mais ça, c'est une offre, c'est un cadeau.
En 1892, pour le quatrième centenaire de la découverte.
Ce sont de superbes objets en or.
Des objets en or, des bouteilles en de forme Colombie, de personnages, oui. Magnifiques de Colombie, que d'ailleurs la Colombie aujourd'hui réclame.
Et qui ont été exposés justement pour l'exposition de 1992 à Séville.
Absolument. Et donc en Espagne non plus, l'Espagne possédait les Philippines jusqu'à la fin du siècle dernier. Je ne me rappelle pas la date exacte à laquelle les Philippines ont vendu, l'Espagne a vendu les Philippines aux États-Unis d'Amérique. Et les Américains, eux, les missionnaires américains, ont rapporté un certain nombre d'objets des Philippines. J'en ai trouvé aux États-Unis. Vous savez que dans le nord de l'île de Luçon, qui est l'île principale du nord de l'archipel où il y a la capitale Manille, il y a toute une région qui s'appelle la Grande Cordillère, où il y a des gens qui pratiquaient la chasse aux têtes jusqu'à une date tout à fait récente. Ni les Espagnols, ni les Américains, ni même le gouvernement de la République philippine n'est arrivé à éradiquer. C'est vraiment une date tout à fait récente que ces pratiques ont cessé. D'ailleurs, on ne sait pas si vraiment elles ont cessé. Mais ces rituels de chasse aux têtes allaient de pair avec la création d'un certain nombre d'objets extraordinaires. Sans ça, on n'en parlerait pas, ce serait du folklore. Et de ces objets, il y en a beaucoup qui sont sortis du pays dans les années 60, 70 encore, et qui sont des objets tout à fait remarquables. Il y a certains fétiches en bois, en forme de statuettes de forme humaine, qui ont été analysées grâce aux méthodes du carbone 14, et qui se trouvent avoir une ancienneté de 400 à 500 ans. Car il n'y avait rien de plus précieux. On les mettait dans les greniers à riz. Et si par hasard un grenier à riz brûlait, on laissait volontiers brûler le riz, mais on allait, au péril de sa vie, sauver la statuette. Il y en a quelques-unes d'ailleurs qui portent des traces de brûlure. Et ces choses-là sont très belles. Ça représente des personnages aux bras croisés, comme souvent en Océanie, les effigies d'ancêtres,
côté un peu hiératique,
un côté un peu hiératique. Ce sont des pièces qui sont très belles. Et à peu près simultanément, dans les années 60, j'ai été mis face à face à deux statuettes qui étaient à peu près de même format, dimension, de même posture, pas avec la même patine, mais très semblables par l'esprit. Et l'une venait du nord des Philippines, c'était chez un marchand belge, et l'autre venait de la petite île de Nias, qui est une île qui se trouve dans l'océan Indien, au large de la côte de Sumatra. Quand vous arrivez d'Afrique, admettons que vous quittiez Madagascar pour vous diriger vers l'est, eh bien la première île au fond que vous devriez toucher en abordant l'archipel de l'Insulinde, les archipels de l'Insulinde, et avant d'arriver à Sumatra, c'est Nias. Et alors, j'ai acheté ces deux statuettes, donc la première à Bruxelles, l'autre à Amsterdam, et je ne savais rien, mais rien du tout à l'époque, ni des habitants, des montagnards de la cordillère au nord de Luçon, aux Philippines, ni de l'île de Nias. Alors, je suis allé voir le conservateur du musée de Leyde, qui était un ami, qui a pris sa retraite depuis belle lurette. Il était de père indonésien et de mère néerlandaise. Et il m'a fourni une documentation extraordinaire sur l'île de Nias, montré un livre, un énorme livre, dont j'ai trouvé un exemplaire finalement, que je possède, avec des photos magnifiques, de très grandes photos, superbes, qui datent de 1914, d'autres livres qui datent du siècle dernier. Et il m'a montré qu'il y avait des monuments en pierre étonnant, un village qui se trouvait en haut d'un escalier de pierre de plus de 100 marches, et que ce village avait devant chaque grande maison, des maisons dont le toit culmine à 20 mètres de haut, il y avait des monuments en pierre célébrant les grands ancêtres. Et il m'a dit, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu dire par des missionnaires, tout ça est toujours en place. Les petits objets portables, les statuettes en bois, les choses comme ça sont parties. Mais alors, je suis rentré à Genève, j'ai dit à ma femme, nous allons à Nias. Et nous sommes allés à Nias, c'était pas très compliqué d'ailleurs. On a bien fait d'ailleurs, parce que quelques temps après, il y a une tournée, il y a une croisière touristique au départ de Singapour qui faisait une escale d'une journée à Nias. Et le simple fait que avec ce bateau qui passait toutes les semaines ou tous les 10 jours avec des touristes, avec qui étaient pourtant d'innocents curieux et pas des collectionneurs, eh bien, quand nous sommes allés, ma femme et moi, nous avons payé un chef de village, parce que ça, quand même, je mentirais en disant que ça s'était fait tout seul, mais on a payé un chef de village pour qu'il organise une cérémonie. Et il y avait là, en tout cas, une cinquantaine d'hommes adultes qui portaient tous leurs sabres anciens, leurs boucliers anciens hérités de leur père, et parfois des armures et des casques en fer de récupération, mais qui avaient vraiment servi, et des tissus également anciens. Ils avaient été enlevés leurs vêtements, leurs salopettes, pour mettre ces costumes et prendre ces armes dans leur grenier. Et quand je suis retourné une seule fois 10 ans plus tard, il n'y avait plus rien de tel. Les danses se faisaient avec des copies de boucliers modernes, parce que la danse rapportant toujours, eh bien,
ils avaient continué le cérémonial,
mais ils avaient vendu les boucliers et les armes. Et je dois dire que là aussi, comme dans le temple Maya dont nous parlions tout à l'heure, lorsque je suis arrivé en haut de cet escalier de je sais plus 120 marches et que j'ai vu ce village devant moi avec cette rue pavée de grands blocs de pierre et avec ces bancs de pierre et ces stèles sculptées devant chaque maison, c'était quelque chose, j'en avais les larmes aux yeux et j'avais une fièvre de cheval, je sais pas pourquoi, je sais pas si j'avais attrapé un coup de soleil sur le bateau ou ce qui s'est passé, le lendemain c'était fini, peut-être que ce n'était que l'excitation, mais ma femme a pris des photos de moi où on me voit littéralement ruisselant, les traits tirés et dans un état
halluciné,
dans un état affreux et un peu halluciné, et j'étais halluciné, c'est vrai, et par conséquent, comment vouliez-vous rentrer à la maison que je regarde avec le regard du collectionneur bourgeois genevois qui a fait son emplette à Amsterdam, comment voulez-vous que je regarde encore paisiblement la statuette que j'avais achetée et que j'avais remis dans son contexte?
Les bras étaient toujours croisés, mais elle avait pris de l'intention.
Absolument.
Tout à l'heure, nous étions en 1920, vous nous avez parlé de cet entre-deux-guerres de Joseph Müller et on pourrait parler de la guerre elle-même qui est encore une autre époque par rapport au Mexique et à la possibilité de trouver des pièces. Tout cela va changer très vite puisque les interdits vont tomber un peu dans tous les pays qui ont des pièces précolombiennes, que ce soit au Pérou, au Mexique ou ailleurs, ou au Guatemala. Mais cette chance qu'on a d'avoir vécu un siècle comme le nôtre où tout s'est transformé, pour Joseph Müller, c'était la rencontre... La rencontre avec des objets, bien sûr, mais aussi peut-être avec certains personnages qui vous permettent...
Joseph Müller était à l'origine un collectionneur de peinture. Il a collectionné au son époque. Puisque avant 1918, il avait quand même déjà des Picasso, il avait 6 ou 7 Matisse avant 1918.
C'est-à-dire qu'il fallait vraiment avoir...
Il fallait vraiment... Tout à fait. Joseph Müller a eu l'occasion, évidemment, de rencontrer certains peintres. Par exemple, il a bien connu Rouault. Et tous ces peintres avaient été intéressés par ces formes d'art que l'on qualifiait de sauvages ou de primitives avant eux.
Il faut repartir en 1907 avec les Demoiselles d'Avignon pour s'en rendre compte.
Voilà, enfin en réalité ça commence en 1904-5 quand Vlaminck dans un bistrot achète deux statuettes qui étaient entre les bouteilles, puis un masque que son ami de Rhin lui demande de lui vendre. Contrairement à ce qu'on croit en général, les Demoiselles d'Avignon ont été influencées plus par la découverte par Picasso de deux têtes ibériques que par l'art africain, mais c'est pourtant en 1907 qu'il visite pour la première fois le musée de l'homme et il va rapidement se mettre en 8, 9, 10 à acheter des œuvres d'art africains, mais qu'il ne considérait lui pas forcément comme des œuvres d'art. D'ailleurs, la collection qu'il a laissée et que son fils Claude a photographiée dans la villa de la Californie était une collection qui, sur le plan de la valeur en tant qu'œuvre d'art des œuvres africaines, n'était pas pas d'un très haut niveau, parce que Picasso ne recherchait pas dans une œuvre africaine la meilleure pièce qui soit. Il cherchait une formule plastique intéressante. Il lui suffisait qu'un masque ait, par exemple, des yeux saillants pour qu'il prenne sa guitare, de sa fameuse sculpture guitare, rendue par un tube saillant au lieu que ce soit un creux. Et ça, c'est un des seuls cas où l'on sait de manière absolument certaine que l'art africain a été inspiré Picasso, puisqu'il l'a dit.
Mais ce genre de regard, puisque vous parliez de regard aiguisé, en parlant de Joseph Müller, en côtoyant ce genre de personnage, ce genre de peintre, ces avant-gardistes, Il y a eu tout un regard exotique finalement.
Il y a eu tout un regard exotique, mais vous voyez, tout cela tournait autour de gens. Vous voyez, à côté de Picasso, il y avait Apollinaire, qui était son ami intime, qui vivait avec Marie Laurencin. Apollinaire, lui, était un grand collectionneur qui avait des pièces en général d'une assez grande qualité. Il avait un très beau fétiche des marquises, il avait un fétiche à clous qui étaient des œuvres de qualité. Et puis à côté de Picasso et à côté d'Apollinaire, vous aviez d'autres personnages qui gravitaient, et vous aviez par exemple parmi eux un réfugié hongrois qui s'appelait Brumer, qui était un grand marchand. Et Brumer était installé à Paris, sauf erreur au boulevard Raspail, et je ne l'ai pas connu, mais c'est Pierre Matisse, le grand marchand qui est mort à 95 ans il y a quelques années, qui était le fils du peintre, et qui était installé à New York, qui m'a dit une fois, nous sommes partis, Brumer et moi, sur le même bateau pour New York. Et c'était vers 1925. Donc, forcément, les objets que José Müller a achetés à Brumer, et qui étaient essentiellement précolombiens, il les a achetés entre 1918 et 1925. Et là-dedans, il y avait des objets qu'on ne peut plus trouver aujourd'hui, qu'on ne rencontrerait plus sur le marché. Par exemple, il y a ces déesses de la fertilité avec leur collier de jade aztèque. Il y en a deux qui sont extrêmement belles. Il y a une figure de dieu jaguar
du
Costa Rica, de style Dikis, qui est que le directeur du musée de Costa Rica considère comme la plus belle existante. D'ailleurs, il a écrit récemment un article sur cette pièce-là. Et ça, ce sont des pièces que Joseph Müller a eues de Brumer. Son grand compétiteur chez Brumer, c'était Bliss, qui a créé la Bliss Collection de Dumbarton Oaks à Washington.
Là, vous venez de prendre la filière de Paris pour aller ensuite aux États-Unis, et qui eux-mêmes allaient déjà au Mexique.
Et n'oublions pas que Nelson Rockefeller, qui a été un ami à nous, qui était un collectionneur dont la réputation n'est plus à faire, a commencé sa collection pendant la guerre, comme beaucoup d'Américains, en allant au Mexique, parce que les Américains ne pouvaient plus aller dans le Pacifique ni du côté de l'Europe. Donc ils allaient passer leurs vacances et leurs week-ends au Mexique. Et là, il a rencontré d'Arnoncourt, qui était un réfugié autrichien, et qui lui a fait découvrir chez les artistes mexicains l'art précolombien. Et c'est en fait par l'art précolombien que Nelson Rockefeller est arrivé à l'art primitif et a créé le musée d'art primitif de New York.
Quand vous parlez de cette source, en parlant des grands artistes mexicains, ce sont ces mêmes années. Hein. Diego Rivera qui revient au Mexique et qui a connu Picasso, il a la même inspiration, il se réintéresse à son propre peuple et à ses racines.
Absolument.
Et on le retrouve dans pas mal de collections privées du monde. Parce qu'en fait, celui qui nous écoute est souvent dérangé par la collectionnite au sens mercantile du terme. C'est-à-dire, on a toujours ce petit chatouillement en se disant, mais en fait, on achète des pièces et on va petit à petit spolier certains pays. Mais il y a une nature des choses qui fait qu'à un moment donné, c'est possible, et à un moment donné, on s'arrête. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on aurait plutôt envie de sauver quelques endroits plutôt que de favoriser la vente.
Absolument. D'une part, on essaye de sauver certaines choses, mais vous savez, on ne peut sauver que ce qui veut bien se laisser sauver.
Comme tout à l'heure pour les boucliers par rapport à la musique.
Comme tout à l'heure pour les boucliers. Vous savez, il y a des pays qui sont en voie d'islamisation,
Là, vous pensez à l'Indonésie.
Et je pense à l'Indonésie, où le gouvernement n'encourage pas, mais pas du tout, la survivance d'anciens cultes animistes, le culte des ancêtres, parce que forcément, l'islam est contre les représentations humaines ou animalières.
Ce genre de dégâts qu'on aurait en Nouvelle-Guinée.
Oui, et la Nouvelle-Guinée, comme vous le savez, la Nouvelle-Guinée, la partie orientale de la Nouvelle-Guinée, les Rianjaya, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe, mais enfin, actuellement, il s'y passe quelque chose qui n'est pas bien pour les Papous, qui sont originaires du lieu. Et aussi, Java est tellement peuplé qu'il faut bien trouver de nouvelles terres où les colons javanais puissent aller s'installer, même si le climat n'est pas des plus salubres. Et ceci est dit sans aucune critique. J'aime énormément l'Indonésie, qui est un pays dont les gens sont intelligents, sont soucieux de leur avenir, et on est soucieux aussi pour eux, mais il y a certaines choses contre lesquelles on ne peut pas aller. D'un autre côté, il ne faut non plus pas tomber dans le travers qui consiste, par exemple, à vouloir que tous les vases en terre cuite péruviens soient conservés au Pérou, ce qui était une revendication tout à fait officiel qui est apparu dans le journal de l'UNESCO de quelqu'un du ministère de la Culture qui a dit au fond dans le monde entier tous les gens qui possèdent et les musées qui possèdent des vases péruviens devraient les restituer au Pérou.
On ne saurait qu'en faire,
ils seraient en péril. Et au surplus, ce sont les meilleurs ambassadeurs que peut avoir le Pérou
à l'extérieur.
Donc je crois aussi que ce serait une erreur que tous les monuments grecs, que toutes les statues grecques du monde soient restituées à la Grèce qui en possède déjà beaucoup. Et si on connaît la Grèce, qui est un tout petit pays, comme on la connaît aujourd'hui, c'est parce qu'elle a produit Homère et Phidias.
Sur le plan planétaire, est-ce que vous, comme vous l'avez fait, vous trouvez judicieux qu'une caisse puisse partir d'un endroit dans le monde, arriver ici à Genève, repartir à Barcelone, ouvrir un nouveau musée? Est-ce que cette convivialité, finalement, de la muséographie d'aujourd'hui vous paraît quelque chose d'intensément intéressant? Je veux dire, on éveille non seulement l'envie de connaître un pays, comme vous venez de l'indiquer pour le Pérou, mais en même temps, on éveille une connaissance, c'est-à-dire de savoir qu'un précolombien, ça n'est pas forcément un primitif. C'est tout de même un apprentissage humanitaire important.
Oui, moi je suis personnellement pour la circulation des œuvres d'art. Et si l'on veut prendre un exemple qui est tout à fait frappant, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune interdiction, et il n'y en aura pas dans un proche avenir, en ce qui concerne les œuvres de Hodler. Tout le monde peut acheter un tableau de Hodler en Suisse et l'emmener à l'étranger. Et le musée d'art moderne de New York ou le musée d'Orsay ont désespérément essayé d'acheter des grand Hodler, des œuvres majeures de Hodler, c'est impossible parce qu'elles sont toutes soit déjà dans des musées suisses, soit elles vont s'y trouver bientôt, elles appartiennent à des collectionneurs suisses qui ne s'en saisiraient pour rien. Eh bien, c'est désastreux pour Hodler. Hodler est un peintre qui est reconnu en Suisse, en Allemagne et de quelques spécialistes ailleurs, mais pas du tout du grand public, pour une seule raison, c'est que tous les Hodler sont en Suisse.
Mais ces Hodler de Suisse, ça nous fait comprendre que finalement tout ce qui vient de l'extérieur et qui atterrit chez vous peut justement semer une petite graine pour le plaisir des yeux et du cœur.
Il me semble personnellement qu'un vrai collectionneur a envie de partager ce qu'il aime. Un objet de collection, ce n'est pas comme une brosse à dents, ça se prête au regard des autres. Et je crois effectivement que si sur chaque millier de visiteurs qui viennent dans mon musée de Genève ou maintenant dans notre musée de Barcelone, sur chaque millier de visiteurs, il y a un enfant qui se trouve brusquement frappé, qui sent qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire qui lui a échappé jusqu'alors, eh bien, c'est déjà un résultat formidable. J'en serais très heureux.